Les diverses pratiques de la poésie-performance s'inscrivent bien souvent dans une transdisciplinarité. Il s'agit, pour reprendre la formule d'Anicia Truenghi, d'un continuum entre littérature et art, mais aussi entre littérature et différents médias. La poésie-performance est donc au carrefour de l'art et de la poésie. Elle amalgame la lecture publique, la poésie sonore, la poésie-action, l'art-performance, la poésie conceptuelle, l'art conceptuel, le spoken word, l'art processuel ou process art, l'art audio, le happening, etc. Si les techniques de l'enregistrement et de la reproduction du son ont permis un développement important de la poésie sonore à partir des années 50, ce qui marquait indéniablement un point crucial dans l'histoire de la poésie-performance, il serait aussi pertinent de se demander quelle est l'influence des autres médias sur ce champ artistique. En ce sens, il s'agira de voir différentes postures possibles pour les poètes-performeurs. Certains exemples pertinents à cet égard, notamment Charles Penquin, Anne-James Chaton et Sylvain Courtout, permettront de réfléchir à la fois à la critique des médias dans la poésie-performance, aux usages des nouveaux médias par les poètes-performeurs, plus globalement à l'influence des médias sur la poésie-performance, mais aussi aux particularités esthétiques de ces pratiques en regard d'une diversité des dispositifs médiatiques. Les outils numériques et les pratiques ou tendances qui ont émergé ou se sont modifiées grâce à ceux-ci, que ce soit l'échantillonnage, le cut-up, l'autoproduction, les flux d'informations et la saturation sémiotique, sont évidemment au cœur de cette réflexion qui n'est pour l'instant qu'à l'état embryonnaire. Le changement de paradigme qui apparaît lorsqu'on passe de la forme fixe du poème écrit à l'éphémérité de la performance, à la forme changeante d'une poésie du processus, devra bien évidemment être réfléchi. De plus, les notions de poésie ready-made et de post-poésie permettront d'élargir le point de vue porté sur ce qu'on pourrait appeler la poésie autre, pour reprendre le thème de la revue d'un numéro spécial de la revue Inter. Tout d'abord, il faut se rappeler que l'expression « poésie-action » inventée par Bernard Heitzig en 1962 arrive quasiment au même moment que l'apparition du livre « Understanding Media, The Extensions of Man » en 1964 de Marshall McLuhan. Il me semble important de souligner que l'origine de la poésie-action et de la poésie sonore s'inscrit dans le contexte du développement du magnétophone qui permet l'enregistrement et la diffusion sonore. C'est d'ailleurs ce que Paul Zumthor indique dans son article « Sonorité, oralité, vocalité ». Je le cite. La poésie sonore, on le sait, fait un large usage des médias électroniques. Plus encore, nos médias permettent la réalisation d'un désir que la voix porte en elle depuis toujours. Le désir de s'y fixer, sans cesser d'être elle-même, de subsister en échappant à la dénaturation que lui inflige l'écriture, de vaincre par là le temps fugitif et de durer dans l'espace qu'elle a rempli. C'est donc en relation à certains médias que l'affranchissement du livre peut avoir lieu. La première critique des médias des poètes-performeurs serait donc adressée au livre, c'est-à-dire le média privilégié de la littérature depuis l'invention de l'imprimerie. En souhaitant incarner la poésie, la faire vivre hors du livre, on a donc engendré une nouvelle problématique : comment diffuser l'œuvre de poésie-performance au-delà de l'événement ? L'usage de différents médias sera donc envisagé, en particulier ceux qu'on peut associer à l'audiovisuel, ce qui ne veut pas dire que la critique des médias ne continuera pas d'exister au sein même des œuvres de poésie-performance. Par exemple, l'œuvre intitulée « La télévision » de Charles Penquin se retrouve dans une revue audio sous forme de disque, ce qui suppose l'usage d'un média de diffusion à plus grande échelle que la performance en direct devant public. Or, le propos de ce poème sonore est très clairement une critique de la télévision. Les premiers mots que dit Penquin sont, et je cite, « La télé est mon trou du cul, il pense, vous vous pensez dedans, dehors, vous voyez la télé dans votre trou du cul. » Fin de la citation. Tout au long du poème en trois parties, le rapprochement entre la télévision et le trou constitue une sorte d'allégorie, comme si l'un et l'autre pouvaient s'équivaloir. La télévision semble déterminer l'être et déterminer la mort. Dans la seconde partie, la parole s'accélère et le poète dit, je cite, « La télé découpe, la télé déborde le trou de nos découpes, elle découpe la télé, est une fosse sceptique, la télé est une fosse commune. » Constamment, le poème évoque des oppositions. Entrer ou sortir, vivre ou mourir, la parole ou le silence, la naissance ou la mort, etc. Si le poème sonore de Penquin semble donner une idée simpliste de la télévision, il offre aussi, par les nombreux déplacements sémantiques, des perspectives décalées et inattendues. Bien que certains performeurs utilisent l'enregistrement pour dépasser la capacité physiologique de la parole, Penke, au contraire, construit ici sa performance en trois parties, en suivant le souffle que son corps arrive à suivre. Le poème sonore télévision respecte donc les paramètres de la performance vocale naturelle, plutôt que de jouer avec les potentialités du média qu'est la revue sonore. Il n'y a pas de montage, pas de superposition, ni d'effet. On pourrait même dire que c'est une œuvre qui repose sur le média de la performance ou de la parole, bien davantage que sur le média du disque audio. Dans son poème performance Newspaper, Anne-James Chaton Dans le poème performance Newspaper d'Anne-James Chaton, c'est plutôt le journalisme et plus spécifiquement le journal dont il est question. C'est d'ailleurs sur un album intitulé Le Journaliste, réalisé en duo avec le guitariste Andy Moore, que se retrouve cette pièce. La performance Newspaper, donc en version live, se construit à partir de la lecture des titres dans le journal. À chaque fois, le poète-performeur utilise le journal du jour qui change selon le pays où se déroule la performance. On pourrait qualifier ce texte poétique de poésie ready-made, comme le propose Gaëlle Théval dans sa thèse « Poésie ready-made 20e-21e siècle », dans laquelle elle explique comment le principe du ready-made de Marcel Duchamp permet d'aborder les pratiques de la poésie contemporaine qui utilisent du texte trouvé sans pour autant relever du plagiat ou du collage. Chaton, dans sa performance, fait la lecture des titres de journaux. Puis il enregistre ceux-ci et les fait rejouer en boucle avec un échantillonneur. Peu à peu, la matière sonore s'accumule et il continue sa lecture des titres par-dessus la diffusion des boucles déjà enregistrées. Le mélange des différents titres rend de plus en plus confus le propos et fait s'entrechoquer des nouvelles qui n'ont a priori rien en commun. Les mots deviennent une simple matière à la limite du bruit. L'usage de l'échantillonneur permet de créer une esthétique du cycle et de l'accumulation, voire de l'excès. Ce débordement d'informations rappelle celui du journalisme contemporain qui s'inscrit dans une esthétique du flux des chaînes de nouvelles en continu, des journaux en ligne et du désir d'informer en permanence. Plus tard dans la performance, Anne-James Chaton se lève et prend une pile de bouts de papier sur lesquels sont écrits des textes. Il jette ses papiers par terre et les ramasse aléatoirement pour les lire ou les crier dans un mégaphone. La superposition des boucles de voix enregistrées, de la guitare d'Andy Moore et du mégaphone rend la compréhension des textes lus dans le mégaphone quasiment impossible. Si nous ne savons pas l'origine des textes qui sont sur les bouts de papier, à savoir si ce sont des textes ready-made ou écrits par Chaton lui-même, en revanche, la lecture de ceux-ci est clairement aléatoire et la difficulté que nous avons à entendre les mots rend de toute façon plutôt accessoire le contenu sémantique de ces textes. Il s'agit, à partir d'un certain moment dans la performance, d'une sémiotique du bruit, plus que d'une sémiotique linguistique. La saturation de la guitare et celle de la voix sont des signes qui deviennent plus importants que les signes linguistiques. Si la critique de la télévision chez Penke est un peu plus claire, la critique du journal et du journalisme chez Chaton n'est pas aussi frontale. C'est peut-être plus la forme que le fond qui permet d'y voir une certaine critique. Les titres du journal constituant le texte du poème n'indiquent pas de posture critique, mais l'excès d'information et l'excès de parole montrent bien la vacuité possible des médias d'information. En montrant cette surabondance d'information, le performeur rend plus évident le brouhaha médiatique et la lassitude, voire le désintérêt, que cela peut engendrer pour les destinataires. Le paradigme du flux, inhérent aux médias de l'information actuels, constitue très certainement un enjeu fondamental de cette œuvre d'Anne-James Chaton. Chaque image fait appel à d'autres images produisant un enchaînement incoactif de perceptions, écrit Grégory Chatonsky pour illustrer ce phénomène de flux permanent. Par ailleurs, on peut aisément constater que la poésie sonore représente une part très restreinte et peu connue de la création artistique contemporaine. En revanche, les médias de masse comme la presse écrite, la télé et la radio constituent des réseaux à la fois importants et influents. En traitant de la question des actualités dans sa pièce Newspaper, Chaton vient mettre en évidence la distinction entre la culture populaire et la culture savante, ainsi que celle entre la culture de masse et la culture de niche. En effet, en s'inspirant du concept économique du marché de niche, c'est-à-dire un petit segment de marché, On peut voir la pratique de Chaton, mais ce serait vrai de l'ensemble des poètes-performeurs, comme un marché de niche, comme un champ culturel restreint, par opposition à la culture de masse. Il est donc important de se rappeler McLuhan. Le médium de la poésie-performance est déjà un message qui n'est évidemment pas le même que celui des grands médias. La définition du dictionnaire Larousse précise d'ailleurs l'incompatibilité de la niche avec les grandes entreprises, ce qui, bien entendu, inclut les grands médias. Je cite l'extrait de la définition du Larousse. La niche est souvent délaissée par les grandes entreprises pour des raisons de rentabilité, car ce micro-marché a un potentiel faible de clientèle. La question n'est donc pas tant d'envisager la pratique de Chaton ou des poètes-performeurs dans la perspective du marché économique, mais de mettre en évidence la distinction fondamentale qu'il y a entre ces pratiques artistiques et le fondement même des médias de masse. Ainsi, Chaton n'a pas besoin de s'opposer littéralement aux médias, puisque sa pratique en soi relève d'une toute autre modalité. L'apparition de l'Internet a changé énormément le paysage médiatique. En effet, avec le web, le même média permet autant une diffusion de masse qu'une diffusion de niche. Qui plus est, la facilité d'accès des plateformes d'autodiffusion permet aux poètes-performeurs de diffuser leur travail autrement que par la performance elle-même. En ce sens, Charles Penkin est un cas exemplaire. Il multiplie les diverses lectures enregistrées, les textes et les images de ses performances via l'Internet. Entre autres, son poème sonore à la télévision, dont il a été question précédemment, a été repris sous une nouvelle forme. Il s'agit d'une vidéo reprenant la première des trois parties de son poème. Au début de la vidéo, les mots « on s'allume » et « on s'éteint » alternent à l'écran, reprenant le principe de l'opposition qu'on retrouve partout dans le poème. Puis, le texte est lu par Charles Penkin, qui se trouve hors cadre, tandis que sa collaboratrice Nelly Larguier, qui est à la fois artiste sonore, poète, musicienne, performeuse, est filmée en gros plan et elle répète, au fur et à mesure, le même texte que Penkin. Cette nouvelle forme permet de comprendre, d'une part, le caractère fragmentaire et fragmenté de l'œuvre de Penkin. Il ne s'agit pas de construire une œuvre dans une forme finale et définitive, mais de disséminer la poésie et d'en faire un processus évolutif et variable, au gré des performances, des actions et des éditions. Bien entendu, le caractère ludique de cette vidéo rappelle le « jeu du perroquet » qu'affectionne particulièrement les enfants, qui consiste à répéter ce que dit l'autre jusqu'à ce que l'agacement devienne insupportable. Or, bien que la vidéo en ligne puisse se penser comme de l'image, mouvement et du son, à l'instar de la télé et du cinéma, elle implique un paradigme fort différent, à savoir l'autodiffusion. En somme, la critique de la télévision n'a donc rien de contradictoire avec l'usage de la vidéo en ligne. Qui plus est, le rôle important que joue la vidéo en ligne depuis plusieurs années en fait un média clairement ancré dans notre rapport au quotidien et à la banalité, ce qui par ailleurs est une question cruciale dans l'art performance et la poésie performance. Pour Grigory Chatonsky, l'Internet ne doit pas se penser de manière séparée de l'esthétique quotidienne. Internet est sans doute aujourd'hui la forme privilégiée du réseau, son symptôme le plus intense, mais n'est pas exclusif d'autres approches. On ne saurait plus séparer l'esthétique des technologies de l'esthétique quotidienne, parce que la première est inextricablement entrelacée à la seconde. C'est aussi pourquoi les expérimentations numériques sont le prolongement des pratiques artistiques du 20e siècle. Ainsi, on peut considérer que la diffusion en ligne d'une vidéo de poésie-performance est à la fois le prolongement de la pratique performancielle, mais que ça relève aussi d'une esthétique qui est tout autant celle de l'Internet que celle du quotidien et de l'expérience phénoménologique. La liberté qu'offre à l'artiste le média de la vidéo en ligne s'oppose donc à l'aliénation offerte par la télévision pour rester dans la logique binaire du poème de Penkin. Quoique, pour être plus précis, le poème performance « La télévision » est plutôt une logique binaire qui se défait et se refait en permanence au gré des métaphores. Chez Sylvain Courtout, l'usage de la vidéo en ligne relève beaucoup plus d'une imitation des pratiques des amateurs que permettent les plateformes de diffusion comme YouTube. En lien avec son album concept « Vie et mort d'un poète de merde », qui a aussi donné lieu à une performance du même titre, Courtout a produit des vidéos où la qualité du son n'est pas très bonne, et tous les tics et les défauts des musiciens amateurs sont mis en évidence. En quelque sorte, ces vidéos peuvent tout à fait passer pour des vidéos de musiciens amateurs, pour quiconque ne connaît pas Courtout comme écrivain et comme performeur. Que ce soit dans les vidéos « La poésie est ma petite amie » ou dans « Schizo Boy », qui sont directement liés au projet Vie et mort d'un poète de merde, ou que ce soit dans les autres vidéos de Courtois and Friends, qui chantent des reprises, la particularité de ces vidéos est d'être à la fois une extension du projet d'album et de performance, tout en étant les objets autonomes qui se noient dans le flux des vidéos sur l'Internet. Elles se fondent pratiquement dans le paysage de la vidéo en ligne. De manière contradictoire, le média qui permet à ces vidéos d'exister dans l'espace public est aussi ce qui permet au projet artistique de disparaître, d'être invisible, puisque l'interprétant ou la clé interprétative nécessaire pour comprendre qu'il s'agit d'une performance détournant ou caricaturant la vidéo populaire n'est pas donnée clairement. Autrement dit, le fait que ces vidéos soient sur YouTube et non dans une galerie d'art ou dans un événement de performance fait en sorte qu'elles semblent n'être que les vidéos autoproduites d'un musicien, disons, pas très professionnel. En plus des vidéos où l'on voit Courtois en train de jouer de la musique et de chanter, on peut aussi voir une version vidéoclip de la pièce « La poésie est ma petite amie » réalisée par Philippe Boisnard, qui est lui aussi un écrivain et un performeur, mais aussi un artiste plasticien qui collabore régulièrement avec différents artistes sur des projets multimédia et interdisciplinaires. Cette version vidéoclip réitère de façon évidente l'aspect amateur, autant dans la musique que dans l'image vidéo, et les effets graphiques. Le poète de merde, pourrait-on dire, sait s'entourer d'artisans du même calibre que lui.
J'ai passé du temps à écrire ces conneries, le soir dans mon lit, à faire de la poésie. Ça passait le temps, mais je ne sais pas pourquoi. Les textes envoyés, ça ne marchait pas. Devenir poète, être Gallimard, c'était un rêve fouette, mais y en a qui se marrent. J'aurais voulu être un putain de poète, non subventionné, mais surtout publié, car la poésie...
Par contre, les vidéos qui documentent la performance « Vie et mort d'un poète de merde » ayant eu lieu au Palais de Tokyo à Paris, ont un tout autre statut. Certes, elles mettent aussi en scène l'amateurisme et le désespoir du personnage de poète de merde, mais l'amateurisme réside plus dans ce qui est donné à voir et à entendre que dans la mise en scène bancale d'une vidéo faite à la maison. On voit bien dans cette série de vidéos qu'il s'agit d'une captation d'une performance ou d'un spectacle, et il est clairement indiqué que l'événement a eu lieu au Palais de Tokyo. En ce sens, il est un peu plus facile de comprendre qu'il s'agit d'une performance dans un musée d'art contemporain. Par contre, ces vidéos sont aussi présentes sur YouTube, exacerbant la nature même du média. L'Internet permet de faire cohabiter l'autodiffusion et la diffusion professionnelle, les wannabe artists, tout autant que les artistes reconnus. La plateforme de vidéos en ligne, où tout se retrouve au même niveau, devient un symbole de la condition postmoderne qui est à l'œuvre avec l'Internet. Il s'agit donc d'un lieu propice à l'indifférenciation généralisée. Tout récemment, Charles Penquin a débuté une nouvelle série de vidéos pour la revue en ligne Tapin au carré qui s'intitule « Les tutos poèmes ». Il s'agit d'une référence aux nombreux vidéos tutoriels qu'on retrouve sur la toile. La description du projet est relativement simple. Sur cette page, Charles Penquin proposera régulièrement à Tapin au carré de nouveaux tutos poèmes nous initiant à la poésie par des activités simples et variées, réalisables à la maison avec un minimum de matériel. Le mot « poésie » doit évidemment s'entendre dans son sens élargi, c'est-à-dire incluant la poésie sonore, la poésie action et la performance. Cette série de vidéos permet aux poètes performeurs à la fois de détourner l'idée du tutoriel, mais aussi d'élaborer des vidéos de poésie qui peuvent autant se penser comme des performances en soi, ou bien comme une méta-performance. En effet, dans le premier tuto poème, qui reprend de manière très mimétique l'idée du tutoriel, Penquin nous explique comment faire le poème sonore qu'il finit par faire dans la même vidéo. En ce sens, la performance existe parce qu'il y a la vidéo en ligne, le contexte d'énonciation donne à la vidéo le caractère de performance. L'idée du document photographique envisagé comme performance est au cœur de la réflexion de Philip Ostlander. Il évoque d'ailleurs l'idée de « perform photography », une performance photographique qui se présente au public par l'image et non par l'événement de la performance en action. On pourrait donc dire dans cette perspective que le tuto poème numéro 1 de Penquin, intitulé « Le poème sonore », relève de la « perform vidéo », que c'est une performance vidéographique. D'autre part, on pourrait aussi voir dans ce premier tuto poème une certaine parenté avec la performance musicale « Waterwalk », que John Cage a réalisé à l'émission de télévision « I've Got a Secret » sur les ondes de CBS en 1960. Contrairement à Cage, qui présentait de la musique d'avant-garde dans un contexte de télévision populaire, ce qui amena, comme on le sait, le public à rire de l'usage qu'il faisait d'objets courants pour faire de la musique, La vidéo de Penkin s'inscrit au contraire dans le contexte spécialisé d'une revue numérique de poésie et de performance. Dans le cas de Cage, l'effet comique est surtout dû au décalage entre la musique d'avant-garde et le public de la télévision populaire, tandis que l'effet comique, absurde et même ridicule chez Penkin, est clairement assumé. Il est, disons, inhérent au projet de ce tuto-poème. Dans le cas de Cage, il s'agit d'un travail de composition complexe qui semble être une blague, tandis que Penkin est plus clairement dans la performance prenant la forme d'une blague, voire d'un pied de nez ou d'une moquerie. Son troisième tuto-poème s'intitule « Ça a déjà été fait ». Pardon, « Ça a déjà été fait, la perf embarquée ». Contrairement au premier tuto-poème, il s'agit d'une performance devant public qui a été filmée. Or, comme l'action de la performance implique que Penkin se filme lui-même, il y a donc deux versions de la performance qui se réalisent en même temps, soit une première performance pour le public dans la salle, mais aussi une performance vidéo pour le public de la revue en ligne. C'est ce qui explique l'expression « perf embarquée » du titre. Il s'agit d'une performance dans une performance. On retrouve bien sûr l'ironie du « ça a déjà été fait » qui renvoie entre autres au paradigme moderniste de la nouveauté. En plus d'être dans le titre de ce tuto-poème, cette phrase a été dite à répétition de diverses manières et pré-enregistrée. Penkin fait donc jouer cet enregistrement avec un petit magnétophone et la phrase devient une sorte d'incantation. Qui plus est, la répétition de cette locution « ça a déjà été fait » devient tautologique puisque « ça a déjà été fait » de dire « ça a déjà été fait ». La répétition se nomme elle-même en quelque sorte. Penkin tourne en rond autour des gens et sur lui-même en se filmant, puis commence à lire en même temps que le magnétophone continue de jouer la répétition du « ça a déjà été fait ». Puis, lorsque Penkin termine de dire son poème, qui constitue une sorte de réflexion critique sur le monde du spectacle et sur la notion de vérité, il recommence à tourner, répète lui aussi en direct « ça a déjà été fait », puis commence à parler de la possibilité que la situation dans laquelle il se trouve puisse avoir déjà existé, étant donné que, je cite, tout a déjà été fait. Je vais vous montrer deux extraits, une un peu au début, puis vers la fin ensuite.
Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait.
Le monde du spectacle. Le monde du spectacle, je n'aime pas ça. Je n'aime pas le monde du spectacle. C'est un monde. Tout un monde. Les gens se déplacent. Ils vont dans un lieu. D'un lieu à un autre. Ils gueulent. Ils n'en peuvent plus de gueuler, les gens. Ils veulent du spectacle. Encore du spectacle. Sinon, ça va gueuler. Ça gueulera. Même durant le spectacle, ça gueulera. Et ça fera aussi du spectacle. Les gens gueulent au spectacle. Ils veulent qu'on les rembourse pour aller à un autre spectacle. Un spectacle encore mieux. Où on pourra encore mieux gueuler. Et gueulent les gens. Ils veulent ce qui se fait mieux. Quoi de mieux que du spectacle? Qu'un autre spectacle encore mieux? Où ça emportera même un spectacle fait sur un rapport nul, même un rapport nul rapporte, même si c'est un rapport nul qu'on rapporte nullement, même si c'est un rapport nul mal rapporté, même nul un spectacle, même un spectacle nul qui part d'un rapport nul, même ça au rapport, même ça, ça rapporte au spectacle.
Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. De se regarder. De regarder comme ça une caméra, ça a déjà dû être fait. Ils ont déjà dû faire ça quelque part. de parler et de tourner et de regarder à notre œil. Ça a déjà dû être fait, ça. Il y a déjà vu quelqu'un qui a dû faire ça quelque part. Il y a bien quelqu'un qui a fait ça quelque part. Il y a bien quelques personnes qui, en parlant, en se regardant, ont tourné comme ça. Ils tournent dans une pièce comme ça, tout autour des gens. Les gens ont déjà été faits, tout a déjà été fait, sûrement. Ça a déjà été fait, ce truc-là. Il y en a bien un qui a dû plancher là-dessus, même plusieurs. Ils ont déjà dû plancher à plusieurs. Plusieurs, ils ont déjà dû faire ça. Combien de gens ont fait ça? À combien ils s'y sont mis pour avoir des sortes de diplômes comme ça? Il y en a bien dû qui ont dû avoir des diplômes là-dessus, quoi. Ils ont déjà dû réfléchir et bien penser la chose et puis tourner encore plus vite, encore plus fort comme ça. Ils ont bien dû le faire. Tout a été dit et fait. Sauf nous, on n'a pas encore été fait. On est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, là. Et puis, c'est en train de naître. C'est en train de naître en ce moment. C'est en ce moment même que ça naît. C'est en train de se faire. Mais ça a déjà été fait. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Nous, on n'a pas été fait. On est en train de naître. On est en train de vivre là-dedans. C'est ça qui est en train de se faire. C'est en train de vivre à l'intérieur de ça. C'est là-dedans que ça tourne. Ça tourne à l'intérieur et c'est en train de se faire et c'est en train de se naître. Wow.
En tenant compte des usages de divers médias par les poètes performeurs, il serait pertinent de s'interroger sur ce que Jean-Marie Glaize appelle la post-poésie. La post-poésie, pour Glaize, c'est-à-dire un espace où nos productions ne relèvent plus des critères canoniques de la poéticité ou littérarité poétique. En ce sens, nos textes, nos pratiques sont sans doute des pratiques critiques ou résistantes, si l'on veut, dans le champ dit littéraire dominant. Très certainement, la poésie-performance, que ce soit chez Penquin, chez Courtou ou chez Chaton, s'inscrit dans un dépassement de la littérarité poétique. Une vidéo de tuto-poème n'a en effet rien à voir avec un livre, même si Penquin s'adonne à l'écriture de textes de façon assez similaire à la façon dont on pense le texte poétique au sens canonique, excluant bien sûr la rime et autres modalités anciennes. Si on se questionne strictement sur les textes de Penquin, ce n'est pas si loin de la poésie contemporaine livresque, ce qu'il fait aussi par ailleurs. Par contre, ce sont les modalités de l'action, de la performance et de la médiatisation par le disque, le DVD ou l'Internet qui en font quelque chose qu'on pourrait très bien considérer comme de la post-poésie. En revanche, l'écriture au sens canonique est à peu près absente de la démarche de Chaton, qui relève plutôt du texte ready-made. S'il y a inscription de sa pratique dans un champ canonique, ce serait plutôt celui de la poésie sonore qui, bien que plus marginale et plus récente que la poésie, commence tranquillement à avoir sa propre histoire. Enfin, Sylvain Courtou s'inscrit tout à fait en porte-à-faux par rapport à quelques canons que ce soit. Le caractère bancal et maladroit, inhérent à son esthétique performancielle, l'éloigne tout autant du canon musical que du canon poétique. S'il est admis que l'art performance permet d'utiliser tout type d'action, de paroles ou de gestes, le seul fait d'être dans un mimétisme du spectacle musical rend la performance de Courtou évidemment suspecte. On oscille donc entre la condamnation pour amateurisme flagrant ou le rejet sous prétexte que ce serait du grand n'importe quoi. En ce sens, l'usage des nouveaux médias que fait Courtou n'est pas du tout dans un champ de recherche entre l'art et la technologie, mais bien dans un usage du média accessible à tous comme modalité de l'amateurisme. Par ailleurs, l'usage simpliste et l'autodiffusion auquel adhère Courtou s'inscrivent dans une continuité du DIY, le do-it-yourself et le mouvement punk. En revanche, la pratique d'Anne James Chaton nécessite l'usage des technologies audio-numériques pour l'échantillonnage et le traitement du son. Lors de ses performances, il a recours à une console de mixage et utilise différents types de microphones. D'ailleurs, le travail de Chaton est diffusé à la fois sur des étiquettes de disques en musique électronique, mais aussi aux éditions Aldante, qui diffusent principalement de la poésie et de la littérature expérimentale, ainsi que dans des contextes d'événements d'art, de poésie, de performance, de littérature, de théâtre, ce qui montre bien le caractère transdisciplinaire de sa pratique. La poésie-performance, envisagée dans tout son spectre, ou la post-poésie dans le champ de la poésie-performance, si vous préférez, c'est-à-dire les diverses occurrences et leur médiatisation, constitue une sorte de réseau intertextuel. Pour Grigory Chatonsky, l'esthétique du flux ne concerne pas seulement l'Internet, il y a aussi le flux de la conscience, le flux de l'économie, le flux des médias de masse et même le flux de notre perception. Or, l'usage du web comme média de diffusion peut s'envisager comme une réelle composante de la poésie-performance. Avançons une hypothèse, écrit Chetonsky, si de nombreux artistes s'intéressent tant aux réseaux, qu'ils soient numériques ou analogiques, c'est moins pour se laisser porter par l'air du temps et par une passagère mode que pour mettre en place des stratégies, moins pour s'opposer de façon bien pensante aux flux constitutifs de notre époque que pour s'y insérer, s'y incorporer, s'y infiltrer. L'usage de la vidéo en ligne chez Penkin et Courtois implique une certaine stratégie à la fois sémiotique et médiatique. Courtois incorpore ses vidéos dans le flux de YouTube, ce qui lui permet de jouer sur cette frontière entre la vidéo d'un amateur lambda et le projet d'un artiste connu. Ce n'est pas qu'un moyen, c'est aussi une part intégrante d'un projet artistique. Pour sa part, Penkin infiltre tous les médias possibles pour diffuser sa poésie protéiforme, sa post-poésie. Cependant, il est clair que certaines de ses œuvres, comme c'est le cas avec son poème sonore « La télévision », ne tirent pas parti de la spécificité du médium. Par contre, les tuto-poèmes, au contraire, tirent parti de la spécificité à la fois du genre web tutoriel et du média, en détournant l'idée du tutoriel vidéo en ligne, mais surtout en jouant avec les possibilités entre l'action de la performance et la vidéo, ou en jouant sur le métalangage d'une œuvre qui explique comment faire une œuvre. Merci.